Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 395 et on aborde un sujet qui est un sujet important dans le métier du responsable de formation, la place de la finance, qui est un sujet qui traditionnellement était très important. Aujourd'hui, beaucoup de rumeurs, certains disent il n'y a plus d'aide, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus de financement, c'est la fin de la fonction financière du responsable de formation. Eh bien, face à toutes ces interrogations, il fallait prendre une experte de la formation. Et pour la première fois, sur Format Radio, eh bien, on a Carole Cherrier qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Et donc, n'hésitez pas à la fin de l'émission ou dans les notes de l'émission à poser toutes les questions que vous voulez avoir et vous aurez ainsi toutes les réponses. Bonjour Carole.
Bonjour Stéphane.
Carole Cherrier. Alors Carole Cherrier, finalement, est-ce que la fonction financière de la formation est toujours importante?
Alors oui, elle est même de plus en plus importante, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, hein. D'autant plus que ça fait des années qu'on considère un petit peu la fonction RH et du coup la fonction formation encore davantage avec son budget comme un coût de formation, un coût, un centre de coût. On peine depuis des années aussi à prouver que c'est un investissement. Et donc on a toujours ces questions sur le ROI, le fameux ROI de la formation, comment on en fait un retour sur investissement et comment en fait on démontre la valeur de la formation. Alors aujourd'hui c'est de plus en plus important et effectivement ça l'est d'autant plus à l'heure des IA, à l'heure de l'automatisation, etc. parce que on a de plus en plus d'entreprises qui se posent la question de ces coûts de formation et
Bien
de en
sûr.
fait à quoi ça sert, si c'est vraiment efficace. Et donc c'est là où le responsable formation il a toute sa part à jouer parce que vraiment la fonction formation, soit on considère que c'est un réel investissement et donc il faut être capable d'aller chercher des financements, d'aller démontrer que les compétences qu'on adresse, elles ont de la valeur et donc elles vont générer du chiffre d'affaires et du profit pour l'entreprise ou alors on considère que c'est juste une contrainte légale ou un levier d'attractivité pour l'entreprise et dans ce cas-là, effectivement, on peut se poser la question de l'intérêt du responsable formation. S'il y a des entreprises dans lesquelles les managers ont leur budget de formation, ils n'ont pas besoin de demander à qui que ce soit, ils ont le bouton pour accepter, valider ou pas valider, et ils lancent leur formation comme ils veulent. Il y a même des entreprises dans lesquelles le collaborateur a un budget de formation à sa disposition, qu'il utilise comme il veut. Et donc, dans ces entreprises-là, on peut se poser la question du coup de l'intérêt de du responsable formation.
Alors,
Donc,
justement, pour le responsable de formation, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que souvent, il était réduit à être un chasseur de primes, en se disant, il y a des financements, et finalement, cette fonction, est-ce qu'elle a vocation à disparaître ou
alors,
elle reste?
elle reste. Effectivement, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que, effectivement, avant, c'était assez clair. On avait des dispositifs relativement simples. On allait les chercher, on n'allait pas les chercher, mais en tout cas, globalement, on avait un dossier assez clair à monter avec des critères assez évidents. Aujourd'hui, c'est vrai que on a l'impression qu'il n'y a plus de financement, que finalement il n'y a plus tous ces dispositifs et que donc c'est plus la peine d'aller chercher. Et donc au-delà de son budget de formation, on ne peut rien faire. C'est faux, hein. Notamment les OPCO, ça reste le premier partenaire du responsable formation. Et il faut savoir qu'au-delà de ce qui est proposé par l'OPCO de manière visible sur le site de l'OPCO, généralement il y a aussi des enveloppes un peu cachées.
D'accord.
Parce qu'il y a des priorités. En fait, les OPCO, elles ont des objectifs et des priorités pour développer le territoire sur lequel elles travaillent. Et donc, le but, c'est de maximiser, là encore, cette employabilité et cette richesse du territoire pour la maintenir au niveau. Donc, les OPCO, elles vont travailler avec l'Europe, avec la France, avec les régions, les départements, pour justement s'assurer que le territoire reste fort en termes d'employabilité et de création de valeur, de richesse. Et donc, ils vont avoir des compétences spécifiques et des priorités de formation qui vont être déterminées par les branches professionnelles et par les territoires. Et donc, le but du responsable formation, c'est d'aller craquer ça et d'aller justement parler à son OPCO, à son responsable formation, ou en tout cas employabilité au sens large, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau national, voire même au niveau européen, si c'est possible, ou en tout cas si on a la capacité en termes de temps aussi à investir là-dedans, pour comprendre quels sont en fait leurs objectifs à eux. Et du coup, dans quelle mesure ils vont être capables de nous accompagner parce qu'on va forcément, nous, en tant qu'entreprise ou organisation, répondre à ces objectifs-là, en fait. Parce que nous, on participe à la richesse de ce territoire-là. Donc, c'est ça qu'il faut aller craquer et ensuite discuter avec eux. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément parce que nous, on pense par exemple que formation. Il y a des
Bien sûr.
dispositifs, par exemple, sur l'intégration. On va travailler sur des parcours de formation longs, dire bah, il n'y a plus rien. Bah, si, en fait, si on part sur des dispositifs un peu différents, par exemple de préparation opérationnelle à l'emploi, ça existe toujours. Ça peut permettre de financer énormément de cette formation-là que de toute façon, on va faire à nos nouveaux embauchés. Alors, faut aller les chercher effectivement sur certains critères. Il faut que ce soit des demandeurs d'emploi, etc. Mais si, par exemple, vous allez chercher des jeunes diplômés, de fait, à la fin de leurs études, ils vont forcément être en situation de demandeur d'emploi et donc ils vont rentrer dans cette catégorie-là. Si vous faites des contrats de professionnalisation, pareil, on pense souvent aux contrats de professionnalisation pour les étudiants, mais vous pouvez très bien, si vous avez des parcours longs d'intégration, nous par exemple, c'était le cas chez Danone. On a des parcours pour nos chefs de marché qui durent quand même jusqu'à 18 mois. Donc, c'est des gros parcours qui sont très coûteux. Donc, on s'était justement posé la question de mettre en place des parcours de professionnalisation, des contrats de professionnalisation CDI, puisque notre cible, finalement, elle correspondait tout à fait à ce dispositif-là. D'accord? Donc, c'est vrai que y a des dispositifs qui existent toujours. Ces dispositifs, ils évoluent chaque année et parfois les critères, ils évoluent même au cours de l'année. Donc, c'est important de garder ce lien très fort avec votre interlocuteur OPCO parce que c'est lui qui va pouvoir vous dire justement, ben, on a telle priorité cette année, quelles sont vos priorités à vous et du coup, comment on peut vous aider. Il y a peut-être des dispositifs qui ne sont pas tout à fait, en tout cas, que nous, on considère pas fait pour la formation ou qui nous semble pas tout à fait entrer dans notre cadre. Et finalement, si on s'arrête, si on va plus loin en tout cas sur les critères, on peut peut-être les faire rentrer finalement voilà, dans nos critères, dans nos populations cibles, etc. Donc il y a toujours des financements, ils sont disponibles, sauf qu'ils sont moins lisibles, c'est vrai qu'avant. Et c'est pour ça qu'il faut que
Alors,
l'OPCO soit
je
le premier
reprends,
partenaire.
si je reprends l'idée, alors Alain Frédéric Fernandez, Alf, qui est un ami commun, avait recensé 230 types d'aides qu'on puisse avoir. Est-ce que l'OPCO les centralise tous? Est-ce que c'est le guichet unique?
C'est pas forcément le guichet unique, mais c'est la personne qui va pouvoir vous mettre en lien pour 80% des cas avec justement
Ouais, c'est énorme,
les
hein.
différents interlocuteurs. Donc c'est quand même, pour moi, vraiment, c'est votre interlocuteur privilégié parce que même si c'est pas lui qui les gère, il va pouvoir vous donner les bons contacts. Alors que pour vous, en externe, ça va être quand même plus compliqué d'aller chercher le responsable de la formation ou de l'éducation au niveau départemental, régional, etc. Ils vont pas forcément répondre à votre mail ou à votre appel. Si vous venez de la part de l'OPCO, c'est déjà une porte beaucoup plus qui s'ouvre beaucoup plus facilement, on va dire.
Exactement, et 80% c'est énorme, donc c'est indispensable d'aller le voir. Est-ce qu'on va voir son conseiller OPCO avec un projet finalisé ou en se disant j'ai une stratégie, donc mon projet n'est pas bien défini, mais on pourrait le définir ensemble. Qu'est-ce que tu conseillerais?
Alors moi, je conseille déjà en premier lieu de toujours, en début d'année, faire un point avec l'OPCO pour présenter un petit peu justement la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation qu'on gère, pour que l'OPCO, elle connaisse. Déjà pour maintenir ce lien, c'est important d'avoir une relation forte avec son OPCO et pour que justement l'OPCO elle connaisse déjà votre stratégie dans son ensemble. Parce que avant même d'avoir des projets précis, il y a peut-être des choses que vous n'allez même pas avoir en tête, même pas envisager d'un point de vue financement. Et l'OPCO elle va vous dire, mais attendez, ça c'est aussi c'est dans nos cordes, on peut vous aider là-dessus. Dites-moi plus. Donc c'est important dès le début de l'année d'aller faire ce rendez-vous avec l'OPCO, de redire, de se représenter, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs, et de se dire, voilà, nous cette année, notre priorité c'est ça, les compétences qui sont absolument indispensables à adresser, c'est celles-ci, voilà, comment vous pouvez nous aider, quels sont vos objectifs à vous? C'est important de leur demander à eux quels sont leurs objectifs, parce que dans votre stratégie justement financière, il va falloir faire matcher les deux en fait. Il va falloir se dire, OK, ça, c'est pas forcément dans leur stratégie, ou en tout cas, de prime abord, le lien n'est pas évident. Donc, comment je vais faire en sorte de rendre ce lien plus évident et de pouvoir se dire, OK, par exemple, voilà, le contrat de professionnalisation, ça concerne plutôt le recrutement. Comment je fais pour en faire un dispositif qui concerne plutôt la formation? Parce que, in fine, c'est ça que ça va faire, en fait. Ça va financer de la formation principalement. Et donc c'est vraiment c'est vraiment entretenir cette relation, cette conversation de partenaire. C'est vraiment un partenaire, c'est pas un prestataire, l'OPCO. Ça doit être vraiment un partenaire qui connaît votre stratégie business. Donc ça veut dire aussi que moi, responsable formation, je dois connaître et je dois bien comprendre la stratégie business de mon organisation pour savoir où je vais et comment je vais pouvoir adresser les bonnes compétences sur les bons formats et avec le bon mode de financement. Parce que effectivement, si j'arrive à récupérer, je sais pas moi, 10 000 euros sur un projet qui m'en coûte 20 ou 30 000, c'est toujours un
C'est
tiers de budget que
impressionnant.
j'utilise pas et donc que je peux réutiliser pour autre chose. Et l'OPCO, elle répond aussi à ces objectifs d'employabilité, de développement de telle ou telle compétence, etc. Donc c'est du gagnant-gagnant. Mais si je ne fais pas cette démarche, si j'arrive directement avec un projet déjà ficelé en disant voilà, moi j'ai déjà vu, j'ai ça, 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 donc vous me donnez cet argent-là, déjà en général ils n'aiment pas ça parce que finalement vous les réduisez au statut de valideur, ce qui n'est pas leur rôle. Leur rôle c'est quand même de conseiller hein, au départ. Donc c'est pas très agréable, mettez-vous à leur place, hein, c'est le même principe. Si vous, vos managers, ils viennent vous voir en vous disant voilà, j'ai déjà trouvé le programme, t'as plus qu'à signer. Alors oui, ils ont fait votre boulot, c'est bien, ça vous décharge parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais enfin, d'un point de vue égo, c'est pas très intéressant, quoi. C'est dire que finalement, votre valeur, elle se réduit que à signer le chèque. C'est pas très agréable. Donc du coup, c'est vraiment pas utiliser pleinement la valeur de l'OPCO, en fait. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. L'OPCO, c'est un partenaire. Il faut qu'ils comprennent votre stratégie business parce qu'ils vont penser à d'autres choses et ils vont vous accompagner avec beaucoup plus de. Ils vont être beaucoup plus volontaires dans votre accompagnement parce qu'il y a beaucoup aussi de financements aujourd'hui, donc les fameux un peu financements plus ou moins cachés, qui nécessitent en fait que votre conseiller OPCO finalement parle pour vous. Vous n'êtes pas là au moment de la délibération. Et donc c'est le conseiller OPCO qui va présenter votre projet, qui va le défendre et qui va du coup obtenir ou non la validation au niveau de son instance régionale. Et donc, si vous n'avez pas une bonne relation avec l'OPCO et que vous n'avez pas été capable de défendre votre sujet suffisamment bien, lui, il va pas être capable non plus de le défendre assez bien et donc vous n'aurez pas forcément les fonds escomptés finalement.
Exactement. Et puis l'OPCO, ça permet à éviter aux responsables de formation de faire la veille sur toutes les dispositions qu'ils ont disponibles. Et comme tu le disais très justement, qui bougent beaucoup. Et donc c'est un travail qui non seulement il faut faire autant le déléguer, puisque c'est pas le travail le plus intéressant en se concentrant sur les envies de formation qu'on a. Est-ce que tu dirais que les OPCO sont les vieux responsables de formation disent c'est des bureaucrates?
Alors, c'est souvent vrai. C'est des bureaucrates parce que c'est historiquement, c'est vrai, ils étaient là pour finalement s'occuper de faire les financements et donc d'accorder les budgets, etc. De remplir des dossiers hein, finalement. Mais c'est plus leur rôle depuis longtemps. Hein. C'est plus leur rôle au moins depuis 2018, mais déjà dès la réforme de 2014, c'est plus leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment d'être des accompagnateurs, des guides sur justement le développement de leur territoire. Et donc, c'est pour ça que on a un peu parfois des profils qui peuvent être un petit peu bureaucrates, effectivement, parce que c'est des gens à qui, il y a quelques années, on demandait simplement de valider des dossiers administratifs, et donc qui vont regarder simplement, entre guillemets, un peu bête et méchant, le critère est rempli, c'est bon, le critère n'est pas rempli, c'est pas bon, retour à l'envoyeur, vous vous débrouillez et vous me renvoyez le bon dossier. C'est pas leur boulot aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont un peu de mal à passer dans le conseil, à bien connaître tout ça, parce que bah, ils n'ont pas forcément tous non plus été accompagnés, formés, parce que cette réforme, elle s'est faite quand même assez brutalement, et donc forcément tous les interlocuteurs sont pas aussi excellents que ça. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas travailler avec eux. Au contraire, faut les pousser là-dedans et faut travailler avec eux pour leur dire voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait tel. Si on peut regarder par exemple le site de l'OPCO, c'est un très bon support parce que généralement le site lui, il est assez didactique quand même. Et donc de dire voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur tel et tel financement, comment je vais chercher là, pourquoi il y a telle compétence qui sont mises en valeur, qu'est-ce que vous entendez par ces compétences-là, comment on peut les adresser, est-ce que vous avez des partenaires privilégiés, est-ce que il y a différents dispositifs qui sont actionnables par rapport à cette compétence-là, etc. Et en général, si vous avez quelqu'un qui est plutôt administratif, bureaucrate, il va vous dire, écoutez, je ne sais pas, mais il pourra pas rester là. Il va vous dire, ben, je vais me renseigner, je reviens vers vous.
Exactement.
Et là, vous avez tout gagné parce qu'il va s'intéresser, il va se poser la question parce qu'il sait que vous n'allez pas lâcher. Généralement, le problème des bureaucrates, c'est qu'ils attendent en fait que vous lâchiez, que vous disiez, ah ben mince, le dossier est pas complet, ah ben tant pis, je retourne travailler dans mon coin et je reviens quand le dossier est complet. Non, c'est pas ça. Votre dossier n'est pas complet, très bien, ben, complétons-le ensemble, aidez-moi, puisque en fait, c'est surtout vous qui allez pouvoir m'aider, m'accompagner. Et donc, il faut vraiment les faire bosser, hein, entre guillemets,
Très
pour
bien.
vous, parce qu'une fois que vous les avez, il faut pas les lâcher, en fait. Il faut qu'ils sentent qu'ils doivent délivrer cette valeur-là, que vous en avez besoin et que, accessoirement, c'est quand même leur boulot. Donc, sans leur dire évidemment quoi faire, parce que c'est pas, évidemment, c'est pas très agréable, mais leur faire comprendre que vous avez besoin d'eux, que c'est important et donc qu'ils ont un rôle à jouer dedans et que ça va favoriser finalement cette relation de partenaire, en fait. Donc ça va les valoriser eux aussi par rapport à leur hiérarchie, par rapport à leur activité, etc. Et donc il faut plutôt jouer là-dessus, ouais.
Alors, j'aime beaucoup ta façon de présenter les choses parce qu'on voit bien l'ancienne responsable de formation, celle qui connaît les choses pratiques pour faire avancer les dossiers. Donc, c'est plein de bons conseils. Tu as donc, Carole Chérier, tu disais que dans la démarche, tu as parlé du mot qui fait rêver tous les responsables de formation, le ROI. Donc, comme quoi, est-ce que finalement, ce n'est pas un mythe?
Alors, ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai fait aussi, hein, je me suis heurtée au problème, hein, et sur des choses qui sont assez, entre guillemets, simples, hein. Par exemple, la formation des vendeurs. Bon, bah, les vendeurs, ils génèrent du chiffre d'affaires, c'est assez simple et assez transparent. Est-ce que ceux qui sont formés sont ceux qui génèrent le plus de chiffres? Est-ce que ceux qui sont les moins bons, en tout cas ceux qui génèrent le moins de chiffres, sont ceux qui ne sont pas formés? Ben non, le problème,
Exactement, c'est ça.
c'est que si c'était aussi évident, ce serait bien plus facile pour nos responsables formation d'aborder le sujet comme ça. C'est pas du tout automatique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut pouvoir démontrer la valeur. Et ça, c'est vrai. Donc, si vous avez effectivement des responsables de département, des managers, des collaborateurs qui viennent vous voir avec des programmes de formation en vous disant, il me faut ça, est-ce que tu peux le financer, est-ce que tu peux me le valider? Clairement, posez-vous les bonnes questions parce que là, vous êtes en très mauvaise posture. C'est sûr que le ROI, ça veut dire que eux, en tout cas, ils voient pas le vôtre. Ça, c'est certain. Et donc, ça veut dire que vous êtes juste un carnet de chèques. Ce qui est un peu dommage. Et surtout, à l'ère de l'IA, il faut aussi se poser la question de la valeur qu'on génère et de l'employabilité personnelle qu'on peut avoir à long terme. Donc, clairement, le ROI va être plutôt dans est-ce que ça génère de la valeur? Donc, est-ce que les managers, ils sont capables de dire, bah voilà, Carole, elle m'a organisé cette formation-là, j'avais tel problème dans mon équipe, j'avais un problème de, je sais pas moi, les vendeurs, ils écoutent pas assez les clients. Mon équipe financière, elle est toujours en retard sur tout, on a des problèmes de gestion du temps et des priorités, etc. On a travaillé ensemble, on a mis en place telle formation et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Ou en tout cas, ce problème, il est réduit, je génère plus de chiffre d'affaires ou mon équipe, elle est plus efficace parce qu'on a résolu des problèmes de, je sais pas, de communication dans l'équipe, etc. Donc, il faut que les autres parlent pour vous. C'est ça, en fait, votre vrai ROI. Ça va pas être dans le chiffre d'affaires, ça va pas être dans voilà des parce que ça le lien il est trop Il est trop compliqué à établir. Il y a plein de choses qui font que, et même sur voilà des métiers où ça a l'air assez simple de se dire bon ben il génère des ventes, il est bon, il génère pas des ventes, il est pas bon. Ben non, parce que vous pouvez très bien avoir une mauvaise année, vous pouvez très bien avoir voilà un client qui normalement achète tous les ans et là cette année ben, il est obligé d'avoir des restrictions budgétaires et donc il vous achète pas et donc vous plombez votre année. Ça veut dire que vous êtes mauvais. Donc de la même manière, la formation ben, c'est pas automatique et puis nous-mêmes on le sait, c'est pas parce que on va en formation, qu'on retient et qu'on est capable ensuite d'appliquer correctement ce qu'on a appris. Donc le ROI va être plutôt dans les feedbacks finalement et le ressenti qu'ont le COMEX, les managers et les collaborateurs de la formation qui leur est dispensée. Et donc c'est
Donc,
pour ça que
est-ce qu'aujourd'hui pour toi le ROI, c'est le taux de satisfaction des usagers?
alors c'est là où c'est subtil justement. Parce que quand vous demandez aux gens, quand vous regardez en fait les taux de satisfaction qui sont généralement générés à l'issue des formations, hein, est-ce que voilà, j'ai apprécié la formation, est-ce que le formateur a été clair, est-ce que l'équilibre théorie-pratique était bon, gna gna gna, tout ça, en général, vous avez des très bons taux de satisfaction. Alors déjà, c'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que sur la feuille, vous avez 5 sur 5, et en parallèle, il y a la personne qui vient vous dire, ah non, mais franchement, ce formateur, il est vraiment nul, il faut arrêter de nous le mettre. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as mis dans ton évaluation de formation? Ah bah, j'ai mis 5. Ah bah ouais, mais du coup, moi, je fais comment pour lui dire qu'il est nul si dans ses
Tout le monde dit
attestations
qu'il est
de formation?
excellent,
Il
absolument.
est excellent. Oui, mais bon, je veux pas qu'il se fasse virer, je veux pas qu'on lui, voilà. Bah ouais, mais donc du coup, moi, je fais rien avec cette data, elle me sert à rien puisque vous mettez des données fausses. Donc c'est gênant. Donc la satisfaction, elle est, faut faire attention aux chiffres parce que ça veut dire quand même des choses. Hein. En général, les gens, ils mettent pas 5 sur 5 quand ils sont complètement mécontents, mais ça veut, ils vont pas forcément mettre 0. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué de voir ça. Donc il faut vraiment aller au contact du business. Hein. Le responsable formation, pour moi, c'est vraiment le métier qui est le plus au contact du business dans l'équipe RH. Le HRBP. Avec le HRBP, voilà, ou le, en tout cas le responsable RH, le référent RH généraliste. Pourquoi? Parce que en formation, on va travailler sur des compétences et surtout sur la réalité en fait. La question qu'on doit demander à nos managers, à nos responsables de département, c'est où est-ce que tu galères en fait? Où est-ce que finalement il faut travailler? Soit parce que on n'est pas bon. Soit parce que ça fait notre avantage concurrentiel, on est particulièrement bon et reconnu là-dessus, et donc il faut maximiser finalement cette compétence-là parce que c'est ça que nos clients nous reconnaissent. Et donc il faut que tout le monde applique les bonnes méthodes et les bonnes et ait les bonnes compétences en fait. Et donc pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Typiquement, moi je sais que voilà, un jour, j'ai une de mes chargées de formation qui vient me voir en me disant, voilà, il faut former toute l'équipe finance, donc on était quand même sur 15 personnes, hein, à la gestion du temps et des priorités. Alors attends, moi je veux bien, mais ils sont tous nuls. On a embauché des gens qui tous ont, savent pas gérer leur temps. Moi, ça me semble un petit peu étonnant. Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le problème, c'est un problème de ressources? Peut-être qu'ils sont pas assez, fondamentalement. Peut-être que le manager, il fait pas son boulot correctement. Et donc, c'est peut-être pas l'équipe qu'il faut former, mais peut-être le manager qu'il faut former sur, je sais pas, la délégation, l'organisation, le feedback, la communication interpersonnelle, parce que peut-être dans l'équipe, ils se parlent pas et donc ça leur fait perdre beaucoup de temps, etc. Soit effectivement, il y a un problème de gestion du temps, mais moi, ça m'interroge que tu viennes me dire que toute l'équipe a un problème de gestion du temps. Ça me semble quand même assez étonnant. Et donc, notre job à nous, responsable formation, c'est ça, c'est d'aller questionner le business, de dire, écoute, est-ce que tu es sûr que ton diagnostic est le bon et que ta réponse est la bonne? Parce que moi, quand je vais chez le médecin, je lui dis pas, il me faut du paracétamol ou du Spasfon. Je lui dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal ceci. Et si je commence d'ailleurs à dire à mon médecin, il me faut ça et ça, il va me dire, attendez, c'est pas ça votre job. Vous me
Ouais, c'est
dites
ça.
quel est votre problème. Et moi, j'établis un diagnostic et je vous donne la solution qui me semble la plus adaptée parce que c'est moi le professionnel. Ben, le responsable formation, c'est exactement la même chose. Dis-moi, toi, manager, quel est ton problème en termes de ressources humaines? Où est-ce qu'ils sont tes pain points? Où est-ce que tu galères? Où est-ce que c'est compliqué? Et du coup, on va réfléchir ensemble et en général aussi avec le HRBP ou le responsable RH un
Bien
peu
sûr.
généraliste de se dire, bah, Est-ce que c'est vraiment la formation la solution? Peut-être qu'il y a d'autres solutions, ou peut-être que c'est une partie de la solution et que finalement la stratégie, elle doit être avec des actions multiples. Et donc on va travailler sur peut-être, bah, il y a du feedback, il y a de la délégation, il y a de la formation effectivement pour la gestion du temps et des priorités, peut-être, mais c'est une action parmi plusieurs actions parce que sinon, tu vas envoyer tes... Et en plus, c'était encore plus flagrant pour ce cas-là, c'est-à-dire que tu vas envoyer toute ton équipe perdre 2 jours alors que tu es donc en train de me dire qu'ils gèrent pas leur temps, donc qu'ils sont en retard. Tu vas les envoyer prendre 2 jours de retard. Et en plus, si c'est même pas ça le problème, si le problème c'est un problème d'organisation ou de ressources, c'est-à-dire que tu vas en plus générer de la frustration supplémentaire parce que tes collaborateurs ils vont dire non mais attends, non seulement je fais le travail de 3 personnes, et en plus de ça, on me fait comprendre que c'est moi qui ne sais pas travailler, qui ne sais pas gérer mon temps. Bon courage après en termes de motivation et d'engagement.
Alors
Ça,
là où
voilà.
c'est formidable dans ce que tu dis, c'est à la fois le fait d'avoir une compétence stratégique, c'est-à-dire prendre les problèmes, les décortiquer pour arriver à trouver des solutions, mais ça nécessite aussi de construire la confiance. C'est-à-dire
Exactement. Il
qu'un
faut construire
manager
la
dise, par
confiance et la
exemple,
légitimité. Tout à fait. Ouais.
et donc ça nécessite pour le manager d'avoir un lien, que le responsable de formation construise ce lien pour qu'il puisse dire, par exemple, ce qu'on a pu entendre parfois, eh bien, moi je ne suis pas bon là-dedans, ou je ne sais pas gérer mon équipe. Ce qui est un aveu extraordinaire de confiance, de dire j'ai un problème et j'accepte de le donner. Comment est-ce qu'on fait pour faire
Exactement.
ça?
Ben, d'abord, il faut avoir une posture qui soit pas une posture haute. Il faut avoir une posture un peu modeste de dire, écoute, moi, manager, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué ce qu'on leur demande, hein, et c'est vraiment de plus en plus compliqué parce que voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont un peu plus individualistes et donc ils veulent qu'on les traite dans leur spécificité. Et donc, bah, c'est plus compliqué pour le manager parce que bah, lui, déjà, il a péniblement eu une ou deux formations dans les entreprises qui favorisent déjà la formation des managers. Il y a plein de managers qui ne sont pas formés, hein.
Bien sûr.
Donc, ils arrivent avec les ressources qu'ils ont et en général, pas beaucoup. Donc, c'est difficile et donc, il faut aussi se mettre dans cette posture-là, arrêter de dire, il n'y a qu'à Faucon, tu es manager, ton rôle, c'est de faire ça, ça, ça et débrouille-toi. Non, faut déjà leur donner le droit de dire, bah non, mais on sait que c'est compliqué et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Si c'était simple, il n'y aurait pas besoin de RH, en fait, hein. Soyons clairs. Si
Bien sûr.
manager, c'était simple, il n'y aurait pas besoin de RH. Et d'ailleurs, si les gens se manageaient tout seuls, il n'y aurait pas besoin de manager. Donc, c'est parce qu'on a besoin de manager qu'on a besoin aussi de RH. Et ça veut dire que nous, notre valeur, c'est vraiment d'accompagner le manager. Donc, si on est là pour lui dire, il n'y a qu'à Faucon, débrouille-toi et tu devrais être bon, bah lui, forcément, il ne va pas vous dire là où ça ne va pas parce qu'il va dire derrière, j'aurai pas de promotion, j'aurai pas de mobilité, on va pas me faire confiance, on va pas m'augmenter, etc. Il a aucun intérêt à vous donner ces difficultés.
Bien sûr.
Alors que si effectivement on se met en posture de OK, qu'est-ce qui fait? Et il faut arrêter aussi de leur demander de quoi ils ont besoin. Parce que bah,
Oui,
de quoi j'ai
absolument.
besoin? Moi j'ai besoin de fringues, d'un super appart de 300 mètres carrés avec. Ben non, en fait, j'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ou sur quoi il faut qu'on travaille ensemble pour que tu fasses un meilleur chiffre, pour que ton équipe, elle soit plus performante, etc. Comment moi, je peux t'aider à faire en sorte que toi, manager, tu sois dans ton rôle et donc tu garantisses la performance. Et
Donc,
ça, c'est
quand tu parles de
hyper important.
performance, puisque si on reste sur l'investissement et donc le ROI, le retour sur investissement, de plus en plus, il y a une montée en puissance des soft skills. Les gens disent, ben, j'ai des problèmes de cohésion d'équipe, de stress. Et donc, comment est-ce qu'on évalue le stress des gens?
Alors ça c'est déjà c'est être capable de les repérer ces signaux, hein. C'est ce qu'on appelle
D'accord.
les RPS, hein, les risques psychosociaux. Donc il y a le stress, mais il y a plein d'autres aussi signaux. Et déjà ça commence par former les managers. Si les managers ne sont pas capables de repérer ces signaux-là, c'est sûr que ça devient compliqué parce que le collaborateur lui il sait qu'il est stressé ou il sait pas qu'il est stressé parce
Oui,
que les burn-out,
absolument.
généralement, c'est des gens qui, justement, ont tellement intégré le fait qu'ils étaient chargés tout le temps et stressés tout le temps que finalement, ça devient la normalité et au bout d'un moment, le corps, lui, il lâche. Donc, tous ces éléments-là, mais effectivement, même au-delà du stress, de mauvaise organisation, est-ce que finalement, c'est... parce que souvent, c'est ça aussi, hein, c'est ce qui remonte, c'est j'ai pas assez de monde dans mon équipe, il me faut plus de gens, il
Bien
faut
sûr.
donc recruter. Et donc, c'est là où ça bloque, où le COMEX et le DAF et le DRH disent, attendez les gars, nous, il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires à la fin. Donc, si on recrute le monde entier, il faut payer tous ces gens, et donc, on n'est pas à l'équilibre. Donc, est-ce qu'on est sûr que c'est un problème de ressources? Et donc, effectivement, c'est plus facile d'aller dire que on n'a pas assez de monde que de se poser la question de ces pratiques. Est-ce que les gens communiquent correctement? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que moi, manager, je délègue les bonnes tâches? Et donc, c'est pour ça que en termes de ROI, le manager doit se poser la question. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que en RH, on guide, moi, à mon sens, dans ce que j'ai vu, en tout cas, dans des organisations très différentes, on guide pas assez le manager là-dessus. À lui dire, mais en fait, c'est
Mais
toi le problème.
est-ce que c'est pas le problème de l'entreprise qui finalement n'a pas de métrique, qui dit il faudrait que tout le monde soit heureux et tout fonctionne bien parce que les gens fonctionnent comme ça, mais quand on leur dit concrètement comment est-ce qu'on identifie un problème, on n'a pas les métriques pour dire déjà on a identifié, on a le diagnostic, et donc quand on a le diagnostic, on peut faire un projet en disant on va améliorer les chiffres, mais comme il n'y a pas de chiffres dans ces cas-là, est-ce que c'est pas l'entreprise et donc le responsable de formation qui doit construire ou co-construire les indicateurs?
Il peut, mais après, il y a des entreprises qui ont ces indicateurs-là. Il y a plein d'enquêtes collaborateurs, top employer, great place to work, voilà, ce que tu veux. Il y a plein de choses, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça. Moi, j'ai souvent entendu aussi, ça sert à rien que je remplisse ça, puisqu'à la fin, il va rien se passer, en fait.
Absolument.
Alors que dans l'entreprise, la RH a bien mis en place effectivement cette enquête. Elle tanne tous les managers et les collaborateurs pour qu'ils remplissent l'enquête dans les temps. Elle analyse les infos et le manager est censé faire un plan d'action. Hein. Moi, dans plusieurs entreprises où j'ai été manager, je l'ai vu ça. On m'a demandé, moi, manager, tous les ans, tu dois faire ton plan par rapport aux résultats de ton enquête, etc.
Et
Bon,
est-ce qu'il y a
je
un
me
vrai
dis.
suivi du plan?
Eh bien, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas
Ah oui, c'est
forcément
ça.
suivi du plan, et y compris sur des managers qui sont problématiques. C'est-à-dire que quand on a des mauvais résultats, quand on a des bons résultats, on peut se dire, bon, la RH va pas être là derrière mes baskets parce qu'elle a autre chose à faire, quoi. Parce qu'il n'y a pas de problème majeur. Mais pour autant, on pourrait se dire, bah non, je suis censé faire un plan, quelqu'un doit vérifier quand même que le plan est fait. Mais bon, on va quand même laisser, on va dire, l'autonomie et la responsabilité au manager pour gérer son plan d'action. Mais même pour des managers qui sont en difficulté, ou en tout cas qui ont des résultats qui sont pas bons, finalement, en général, on laisse un peu une marge de manœuvre assez forte au manager qui, en fait, est déjà en difficulté puisque les résultats prouvent que son équipe n'est pas contente. Finalement, généralement, on arrive un peu tard parce que on arrive souvent à des plans d'amélioration de la performance managériale, par exemple, hein, les fameux plans où le manager se dit, ah mince, on va me virer, quoi.
Bah
Et
oui, c'est
donc,
ça.
finalement, ces processus-là, ils peuvent être un peu contre-productifs parce que les gens en ont peur et se disent, bah, si on me met ce processus-là de retour à la performance managériale, ou de retour à la performance tout court d'ailleurs pour les collaborateurs, ils vont se dire, mais est-ce que finalement, en fait, j'ai pas déjà un pas vers la porte et donc, je suis pas enclin à améliorer les choses, je vais plutôt me recroqueviller sur moi-même à me dire et à stresser encore plus et finalement à ne pas parler de mes difficultés parce que je vais encore plus démontrer que je ne suis pas compétent. Donc pour moi, il n'y a pas forcément besoin de métriques. C'est bien s'il y en a parce que ça permet quand même de se rendre compte. Et pour certains managers qui se rendent pas compte, hein, il y a des managers vraiment qui de bonne foi pensent
Bien sûr.
être bon, être là où il faut et avoir le bon positionnement pour leur équipe. Et en fait, pas du tout. Donc c'est bien d'en avoir. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ce type d'enquête ou ce type de métrique ça. Mais derrière, il faut savoir comment on accompagne les managers là-dessus. Et encore une fois, la réponse, c'est pas juste on les forme tous au RPS, on les forme tous au leadership, on les forme tous à ceci, à cela, parce que il faut qu'il y ait un vrai Un vrai suivi, en fait, la formation, on parle beaucoup de 70-20-10, c'est-à-dire la formation, voilà, pour 70%, on acquiert les compétences on the job, en faisant, 20% par nos pairs, et 10% par de la formation formelle. Donc des e-learning, des formations, des tutos, des bouquins, enfin, voilà. Donc vraiment, moi, sur la formation, pour que le ROI soit présent, il faut se servir de ce 70-20-10, c'est-à-dire qu'il faut combiner en fait les différentes options, les différentes actions pour que la compétence, elle soit réellement travaillée et qu'elle soit réellement acquise à la fin. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, si je dois travailler ma prise de parole en public, par exemple, oui, c'est bien que j'aille en formation prise de parole en public parce que je vais avoir un contexte sécurisé avec les bons conseils et avoir la vue d'un formateur pour me vraiment pour observer mon comportement, la façon dont donc j'exerce cette compétence-là dans un environnement sécurisé. Mais je vais avoir du 70, par exemple. On va me mettre sur des projets dans lesquels ça va être à moi de faire des restitutions, d'animer peut-être voilà le groupe de travail, de faire des feedbacks régulièrement et donc de m'exercer à la prise de parole en public régulièrement. Je vais peut-être aussi avoir un mentor ou un coach ou un tuteur ou un buddy. On appelle ça un peu comme on veut et on utilise ce format-là un petit peu comme on veut. Mais en tout cas, je peux peut-être avoir quelqu'un qui est bon en prise de parole en public. Ou même tout simplement quelqu'un qui va avoir le droit de me dire bah là non là t'es pas bon voilà pourquoi moi je trouve que tu pourrais t'améliorer sur ça 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 qu'est-ce que tu penses de travailler là-dessus pour la prochaine fois et donc si
Et
on
donc
cumule tout ça
toute une ingénierie pédagogique
exactement
qui
autour
accompagne
de ça
là-dedans.
et le manager lui il est là pour s'assurer que la compétence elle est il y a réellement une montée en compétence c'est-à-dire que son rôle à lui c'est vraiment de se dire bah si je veux obtenir la compétence acquise à la fin, que ça devienne finalement un réflexe dans le travail quotidien de mon collaborateur, bah, faut que je l'aide à petit utiliser cette compétence-là. Si je me contente en tant que manager d'envoyer mon collaborateur en formation et ensuite business as usual, il continue comme avant, ça sert à rien en fait. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent puisque la formation elle avait un coût. J'ai pas généré de business puisque pendant 2 jours mon collaborateur il était en formation donc il n'a pas produit, etc. etc. Donc mon ROI moi de responsable formation il est pas bon, mais le ROI de tout le monde il est mauvais en fait parce que
Bien
le
sûr.
ROI du manager aussi il est mauvais. Il a envoyé quelqu'un en formation pour rien finalement. Donc il y a tout aussi dans l'ingénierie financière, c'est vraiment il faut l'avoir de manière holistique, c'est-à-dire de dire aussi moi responsable formation, je ne peux pas être seule à porter la formation dans l'entreprise. La formation, elle doit faire partie de la culture et donc il faut que le COMEX aussi et la direction se positionnent et l'équipe RH aussi sur le fait que c'est pas juste. Je fais ma lettre au Père Noël avec les formations dont je voudrais que mon équipe bénéficie cette année et c'est la RH qui voit si oui ou non, parce que ça, c'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises,
Bien
hein.
sûr.
Les managers ne savent même pas pourquoi on leur a accepté ou validé des formations. Il y a encore plein de gens qui vont en formation sans même savoir pourquoi.
Bien sûr. Alors,
Donc, ça,
justement,
c'est
dans
pas.
tout ce que tu
Ça
présentes
favorise
dans
pas le ROI, tu vois.
toute l'ergonomie du process, c'est-à-dire il faut que ça marche, il faut réfléchir à l'efficacité qu'on a, et puis à l'intérieur, après, on identifie les points noirs, les points de blocage, etc., comme dans toutes les politiques de qualité totale, comme on dit.
Exactement.
Donc ça, c'est très, très bien et très important de ne pas penser le financement seul, mais dans d'une analyse systémique, holistique, comme tu
Exactement.
dis. Par contre, est-ce que l'intelligence artificielle, ça change quelque chose?
Ah bah oui, ça va changer quelque chose, l'intelligence artificielle, mais après, encore une fois, ça dépend comment on l'utilise. Il y a des entreprises qui sont rentrées dedans en disant on va utiliser l'intelligence artificielle et donc on va créer des outils spécifiques. Il y a des entreprises qui ont dit non, 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 on rentre pas du tout là-dedans parce que
Pas de ça.
on ne sait pas comment ça va être utilisé. On a quand même un problème, c'est vrai, de confidentialité des données, de la protection intellectuelle, etc. Donc il y a tous des aspects aussi juridiques qui rentrent là-dedans et donc il y a des entreprises qui ne veulent pas l'utiliser et qui disent à leurs collaborateurs de ne pas l'utiliser. Ce qui est quand même très dangereux parce que beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle,
Sur leur
même
smartphone, tout simplement.
ChatGPT sur leur chat. Voilà, exactement. Et notamment les jeunes générations qui l'utilisent de manière un peu à tort et à travers, sans se poser la question, effectivement, de la confidentialité des données, de la confidentialité et de la protection intellectuelle, etc. Donc, l'intelligence artificielle, déjà, il faut avoir conscience que, effectivement, les gens vont de toute façon l'utiliser. Enfin, on le voit, il y a des milliards qui sont engagés là-dedans. C'est pas pour rien. Donc, au bout d'un moment, évidemment que tout le monde est touché, tous les métiers. Et donc, il faut, un, s'acclimater, c'est-à-dire se dire comment je vais pouvoir l'utiliser, comment surtout elle impacte mon job aujourd'hui et demain. Et ça aussi, ça fait partie de cette fameuse GEPP, hein. C'est un peu des gros mots, un peu, voilà, souvent on fait référence à des accords, des obligations légales, etc. Mais la GEPP, à la base, faut pas oublier que la gestion des emplois et des parcours professionnels, elle est là justement pour anticiper les grandes innovations, pour anticiper les grands changements qui vont affecter les jobs et l'employabilité, du coup, de nos ressources. Nous, le but de la RH, c'est quand même de s'assurer, encore une fois, que les ressources humaines qu'on a, donc les gens dans l'entreprise, ils soient efficaces et ils soient efficaces pour longtemps parce que la plupart sont quand même en CDI. Donc on ne peut pas les virer comme ça du jour au lendemain. Et même si on voulait faire des plans sociaux et les virer du jour au lendemain, ça coûte extrêmement cher en argent, en indemnité, en cabinet, parce que généralement on va aussi travailler avec des cabinets pour organiser tout ça, etc. Et surtout en réputation. Hein, on le voit aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire des plans comme ça parce que la réputation, surtout si on est sur des marchés B2C, les consommateurs, ils sont très regardants aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, l'intelligence artificielle, c'est important de voir dans quelle mesure elle va changer mon job et dans quelle mesure moi, je produis encore une fois individuellement de la valeur. Si moi, mon job de responsable formation, c'est juste de signer le chèque, il est évident que demain, si un système d'IA qui un système de chatbot où le manager dit voilà, j'ai besoin, mon équipe, elle n'arrive pas à communiquer, j'ai besoin d'une formation communication voilà ou intelligence collective pour mon équipe, le bot vérifie vous avez bien le budget, oui, non, paf, il valide, vous n'avez plus besoin du responsable formation. Donc si votre valeur à vous, c'est justement juste de valider avec un budget, j'ai 104 budgets, bah ça coûte 10K, oui, ça rentre, non, ça rentre pas. Basiquement, un fichier Excel un peu bien fait peut vous le faire même aujourd'hui sans
Exactement.
intelligence artificielle.
Et c'est là où on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ben, quand on construit la confiance, la relation avec les gens dans la durée, eh bien ça, l'intelligence artificielle ne supplée pas ça. Même les assistants numériques qui peuvent remplir des dossiers, etc., même s'ils remplissent le dossier de façon administrative, la confiance, le fait de dire moi j'ai ce problème-là, ben, ça c'est de la responsabilité du responsable de formation, non?
Exactement. C'est vraiment la valeur qu'on va apporter en tant qu'humain, justement, de se dire, écoute, c'est bizarre parce que, voilà, tu me remontes ces besoins de formation-là. Très bien, mais c'est étonnant parce que l'année dernière, tu m'as parlé de tel problème, et là, je ne les vois pas du tout ressortir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es sûr que tu les as adressés déjà correctement et du coup c'est plus des problèmes? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que tu comptes les adresser d'une autre manière que de la formation, etc. Et donc c'est ça la valeur ajoutée que effectivement l'humain il va apporter et que l'intelligence artificielle ne pourra jamais. Enfin, on ne pourra jamais. Ça avance tellement vite, on ne peut pas vraiment dire jamais. Mais en tout cas,
Mais pas dans
c'est
les
ça
prochaines
la valeur
années.
produite. C'est dans quelle mesure j'ai une relation de confiance et un apport en termes de réflexion qui me permet d'aller plus loin et qui me permet vraiment de réfléchir au business, en fait, de comment j'accompagne mon manager, comment j'accompagne mon entreprise pour se dire, on dépense l'argent de la bonne manière. Non seulement on satisfait nos obligations légales, parce qu'il y a quand même ce
Bien sûr.
point-là à vérifier, mais au-delà de nos obligations légales, on dépense l'argent de la bonne façon, c'est-à-dire qu'on forme les bonnes personnes parce qu'on travaille sur les bonnes compétences pour aujourd'hui, et également on prépare les bonnes personnes pour les compétences qui vont évoluer, dont on aura besoin dans 2 ans, dans 6 mois, ça va, voilà, ça va très vite. Et donc, si l'intelligence artificielle, elle peut nous aider sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les SIRH, ils sont de mieux en mieux faits. Et c'est vrai qu'effectivement, hein, c'est quand même bien pratique de ne pas avoir à s'embêter à remplir des dossiers administratifs qui nous font perdre du temps. et qui sont pas très très intéressants à faire. Donc si l'intelligence artificielle peut le faire, ben, tant mieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, il faut qu'on démontre qu'on ait un intérêt en fait en tant qu'humain. Et l'intérêt en tant qu'humain, c'est ça, c'est réfléchir ensemble et construire des stratégies et des plans d'action ensemble qui soient cohérents et qui valident en fait tout un tas de critères qui sont effectivement, est-ce que c'est rentable financièrement? Est-ce que j'utilise mes ressources correctement? Parce que pareil, souvent dans les équipes, en fait, les bons, on les utilise pour énormément de choses. Et les gens qu'on considère comme un peu moins bons ou un peu trop juniors ou un peu, voilà, et bien du coup, on va moins leur donner de responsabilités ou de missions. Ben oui, mais du coup, on les sous-utilise alors que si on... Moi, je travaille beaucoup sur le management par les compétences et non pas le management des compétences. C'est comment je vais utiliser mon stock de compétences et mon stock de compétences, il est bien plus large que mon stock de personnes détenant ces compétences. Et donc, bah, au lieu de se poser la question de est-ce que finalement mes ETP, mes équivalents temps plein, mes ressources humaines, elles sont bien utilisées, elles sont bien chargées, c'est est-ce que je les utilise correctement? Parce que si j'en ai un
Oui, mais
qui
quand
en
tu dis je vais
surcharge.
les utiliser, comment tu les identifies d'abord?
Alors ça, du coup, faut que effectivement le manager il soit capable de les identifier. Donc il faut qu'il soit capable de cartographier dans son équipe de quelles compétences je dispose. Mais en général, ils le savent. C'est juste qu'ils n'ont pas fait ce
Ouais,
travail-là. Ils l'ont
exactement.
pas formalisé. Et c'est là où effectivement le responsable formation, c'est peut-être quelque chose sur lequel il peut aider. Donc responsable formation, HRBP, voilà tous ces postes-là qui sont vraiment en accompagnement du manager, c'est de se dire bah en fait on va poser sur un fichier Excel ou sur une page blanche ou quoi que ce soit, mais se dire ok dans ton équipe tu as 5 personnes, 10 personnes, 30 personnes. OK, dans ces 30 personnes, tu as quelles compétences et à quel niveau de compétences et à quel point c'est important ou pas. Et du coup, par rapport à ce que tu as à produire, donc tes objectifs en général de l'année, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Et par rapport aussi à ce qu'on te demande de plus en plus ou de moins en moins, c'est-à-dire que peut-être que effectivement, bah, de moins en moins, on te demande, je sais pas, de présenter, t'as une équipe de vendeurs, de moins en moins, on demande de présenter le catalogue parce qu'en fait, le catalogue, il est disponible sur Internet et que maintenant, les gens, même les entreprises, elles vont directement regarder le catalogue avant de faire venir un vendeur. Donc, ton vendeur, il a moins besoin de connaître le catalogue, il a plus besoin d'avoir des compétences de conseil, d'accompagnement, de réflexion partagée avec son client. Et donc ça, c'est des compétences qu'on te demande de plus en plus et donc qui n'étaient détenues que par une petite portion de ton équipe. Donc, bah, tu les as, voilà, t'as des compétences qui sont très faibles et qui sont de plus en plus demandées. Et ça, c'est facile de le mettre sur papier. Alors, ça peut être long, par contre. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer non plus trop de temps sur les cartographies des compétences, etc., parce qu'elles vont très
Ou pas
vite
quand
évoluer.
tu parlais tout à l'heure de l'IA, si on
Oui.
prend un LLM quel qu'il soit, il
Ça
peut
peut
être
aller très
interne,
vite.
bien exactement,
Effectivement, ça peut
et
aller
le
très vite.
LLM paramétré peut me permettre de rebondir avec les stratégies de l'entreprise, de me poser des bonnes questions pour le dire simplement, et à la fin mon reporting est tout fait. Et moi
Exactement.
je prends
Et il peut être
conscience de plein de choses.
dynamique.
Absolument.
Exactement. Et il peut être dynamique. Et ça peut aider effectivement aussi bien la RH à se dire, OK,
Voilà.
bah, où est-ce qu'elles sont nos ressources? Est-ce qu'on a les
Exactement.
bonnes compétences pour aujourd'hui, pour demain? Et par rapport à la stratégie business, comment on la décline et est-ce que ça match finalement ou pas? Pour le manager, au niveau de son équipe, il va avoir une vue beaucoup plus granulaire et beaucoup plus efficace aussi parce que, par exemple, pour attribuer les activités, plutôt que se dire, ah bon, bah, je vais demander à Stéphane ou à Carole, il va dire, bah, attends, peut-être que je vais demander à Stéphane pour cette partie-là du travail et à
Voilà.
Carole pour telle autre parce que du coup, bah, Stéphane, il pourra travailler sur d'autres choses en même temps parce qu'il va utiliser seulement ses compétences sur un temps déterminé et Carole, elle pourra faire le reste et donc utiliser aussi les autres compétences de Carole pour d'autres projets. Et donc pour attribuer les activités, pour mettre en place, pour constituer des projets, pour plein de choses, pour faire monter aussi les gens en compétences, ça permet tu vois, de mettre en place des systèmes de binôme avec quelqu'un, un sachant, entre guillemets, ou un expert, et quelqu'un qui est un peu plus novice. Ça permet des backups aussi, parce que effectivement, si tout repose sur les compétences d'une seule personne, bah,
Il y a un
forcément,
risque.
l'équipe, elle est en danger. si cette personne, elle tombe malade ou qu'elle part, on a un problème de compétences qui s'en vont et du coup, la performance, elle est plus au même niveau. Donc, c'est vraiment, ces systèmes-là, ils peuvent aider effectivement, et ça, pour le coup, l'intelligence artificielle, elle commence à le faire très bien, hein. On a effectivement des
Bien
systèmes
sûr.
qui permettent de cartographier rapidement. Et de travailler en dynamique, c'est-à-dire que le but, c'est de le faire évoluer, parce que si on met un an à construire une cartographie des compétences, bah, au bout de l'année, en fait, ça a déjà bougé.
Elle est obsolète. Alors justement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, si on a un responsable de formation qui débute, beaucoup de personnes ne sont pas formées au métier de responsable de formation. Pour une politique de financière de la formation, tu lui conseillerais de démarrer par quoi?
Alors d'abord, je lui conseillerais effectivement d'aller voir l'OPCO, vraiment de savoir, voilà, c'est quoi les priorités. Parce que l'OPCO, elle gère la branche professionnelle, hein.
Ouais, tout à fait.
Il faut bien savoir ce que c'est, la branche professionnelle, c'est tous les employeurs qui font finalement plus ou moins le même métier que moi. Donc, qui ont plus ou moins les mêmes problématiques que mon entreprise ou que mon organisation. Donc, déjà, première chose, c'est aller voir l'OPCO pour comprendre, OK, quelles sont les priorités de la branche professionnelle, quels sont les financements disponibles, quelles sont les difficultés de mes concurrents, de mes voilà, des gens qui sont sur le même bassin d'emploi ou sur le même métier que moi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est d'aller voir effectivement son DRH, son COMEX et de rencontrer les différents, alors peut-être pas tous les managers si on est sur des grosses organisations, mais en tout cas au moins les responsables de chaque département pour savoir, OK, de quoi tu as besoin, quelles sont tes difficultés, qu'est-ce que tu penses de la formation aujourd'hui, sur quoi tu penses qu'il serait prioritaire que moi je travaille. Et c'est important d'avoir et la vue du business et la vue du DRH. Parce que ce n'est pas forcément la même chose, parce que le business ne voit pas non plus la même chose, on ne voit pas la même chose de là où on est positionné, hein. Donc, effectivement, première chose, c'est ça, c'est aller se renseigner sur quelle est la valeur qui est attendue de moi, sur quel sujet il faut pas que je passe à côté, en fait. C'est vraiment ça. Et après, à partir de là, bah, on commence à travailler en équipe, parce que les gens déjà se disent, ah, elle est venue me demander
Ouais.
de quoi j'avais besoin, quelles étaient mes difficultés, sur quoi elle pense qu'elle elle doit travailler. Ça ne veut pas dire dis-moi sur quoi je dois travailler, hein. Ça veut dire dans quelle mesure je peux t'aider, qu'est-ce que tu attends de moi. C'est pas la même chose. Et donc effectivement, les gens vont se dire, ah bah c'est potentiellement un partenaire avec qui je vais pouvoir travailler. Et donc si j'ai des questions, elle va peut-être pouvoir m'aider. Peut-être pas, mais en tout cas, on va réfléchir ensemble à la solution et c'est déjà une première excellente démarche des deux côtés en fait, parce que vous allez voir les gens qui ont une appétence et qui vont plutôt vous aider, vous donner des conseils, et eux vont voir une personne qui va se dire, OK, si j'ai besoin, au moins je sais qu'elle est là, la connexion, elle est déjà établie. Et donc ça, c'est un grand pas qui va vous aider en tant que responsable formation à constituer votre plan, à savoir quelles sont les priorités et à trouver des ressources, des gens pour vous aider à réfléchir en collectif.
Très bien, bravo Carole Cherrier,
Ben,
c'était
merci beaucoup.
passionnant. J'ai beaucoup aimé ton énergie et puis la qualité de tout ce que tu donnais comme conseil, comme petit conseil, etc. Illustration, c'est toujours très très agréable. Si on t'aime bien, comment est-ce qu'on fait pour te joindre?
Eh ben, vous pouvez aller sur LinkedIn directement, donc Carole Cherrier. J'ai également un site internet, donc tout simplement cescompétences.fr. Donc c-compétences avec un s.fr. Et donc voilà, tout simplement, je suis assez disponible sur LinkedIn, hein, je suis très réactive. Donc si vous avez des questions, des discussions, j'aime bien partager, j'aime bien échanger, j'aime bien réfléchir ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn, c'est avec plaisir. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié participer à ce podcast. Donc merci Stéphane pour l'invitation.
Merci, j'espère qu'il y en aura d'autres, ça sera avec plaisir.
Ben
À très
avec
bientôt à
plaisir
tous.
également. À bientôt.